Le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. L'ancien président égyptien Hosni Moubarak est décédé ce matin à l'âge de 91 ans, quelques semaines seulement après avoir subi une opération au pouvoir depuis 1980. Il avait été contraint à la démission, c'était en 2011, à la suite des manifestations du printemps arabe.
L'épidémie de pneumonie virale s'est encore accélérée à travers le globe, avec des bilans en forte hausse, notamment en Iran, mais aussi une dégringolade des marchés financiers inquiets pour l'économie mondiale.
Au deuxième jour de sa visite d'État, le président américain Donald Trump a de nouveau affiché sa complicité avec le Premier ministre indien Narendra Modi, sans qu'aucun des deux hommes ne présente pour autant d'avancées concrètes en matière d'accord commercial.
En France, la situation des finances publiques demeure préoccupante.
Oui, c'est ce qui ressort du dernier rapport annuel de la Cour des comptes qui appelle le gouvernement à plus d'efforts sans tarder pour redresser donc les comptes de la nation. Enfin, l'invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, Alexandre Lache, directeur du syndicat national de l'édition phonographique. Avec lui, nous évoquerons les bons chiffres du marché publiés aujourd'hui. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Femme actrice, femme artiste, elles sont en train de se faire une place dans l'histoire. Oui, mais comment ? Nous en parlerons avec notre invitée, la philosophe et féministe Geneviève Fraisse.
Merci et à tout à l'heure. La famille du défunt avait démenti une première fois des rumeurs avant que la nouvelle ne soit finalement confirmée il y a quelques minutes. Hosni Moubarak s'est donc éteint ce matin à l'âge de 91 ans. Claude Guibal, bonjour.
Bonjour.
Alors pendant 30 longues années, le Raïs avait dirigé l'Égypte d'une main de fer, selon l'expression consacrée, plus exactement de 80 à 2011, avant d'être finalement poussé vers la sortie à la suite de la révolution du Nil. Vous étiez vous-même à l'époque correspondante sur place. Et c'est peut-être au fond, Claude, paradoxalement, ce fameux soulèvement populaire du printemps arabe qui colle aujourd'hui le plus à la peau de Moubarak lorsqu'il s'agit d'évoquer sa carrière.
Oui, absolument, Thomas. Quand on pense à Hosni Moubarak, on garde l'image quelque part de ce pharaon déchu, jeté par le peuple, drapé dans sa dignité, quittant le pouvoir au terme de 18 jours de soulèvement. C'était le 11 février 2011 et la place Tahrir exultait. Hosni Moubarak, le raïs, celui que les chancelleries occidentales considéraient comme l'homme fort, l'homme rassurant du Proche-Orient. 30 années au pouvoir, à la tête du plus grand des pays arabes, signataire de la paix avec Israël, parrain du processus de paix israélo-palestinien, allié des Occidentaux, à commencer par les Américains, qui le maintenaient à flot en lui assurant une conséquente aide militaire. Alors tout ça, ça permettait de ne pas voir les raisons de la colère des Égyptiens face à ce qu'il incarnait aussi. Un régime autoritaire tenu par l'armée dont il était issu, comme avant lui Anwar al-Sadat. Un régime qui se maintenait au pouvoir en écrasant toute opposition politique. Un régime qui jouait un jeu très dangereux avec les islamistes, en tolérant tout en les interdisant les frères musulmans, pour mieux justifier ainsi une répression sans merci sur l'ensemble de l'opposition. Alors ce qui aura coûté la chute de Hosni Moubarak, c'est enfin la corruption, la captation des richesses au profit d'une petite clique de businessmen incarnés par ses fils, Alaa et Gamal. Et c'est les risques que ce dernier ne lui succède qui ont en fait précipité sa fin. Emprisonné pour corruption et pour avoir ordonné le meurtre de manifestants, Hosni Moubarak avait été acquitté des charges qui pesaient contre lui après le retour au pouvoir de l'armée dirigée par l'actuel président, le président Abdel Fattah al-Sissi. Et Hosni Moubarak est mort finalement libre puisqu'il a été remis en liberté en 2017.
Merci Claude Guibal. Le djihad islamique palestinien et Israël ont poursuivi hier soir leurs échanges de tirs dans la bande de Gaza, et ce malgré les appels à cesser les hostilités qui font craindre une nouvelle escalade militaire à moins d'une semaine des élections législatives israéliennes. Par ailleurs, deux membres du groupe islamiste armé ont été tués dans un raid mené par l'État hébreu en Syrie. Et puis en Syrie, justement, 9 combattants du régime de Damas ont eux été tués hier par des bombardements turcs à Idleb, où les forces de Bachar al-Assad, soutenues par la Russie, poursuivent inexorablement leur avancée contre ce dernier bastion à la fois djihadiste et rebelle. Le mot a finalement été lâché hier, bien que l'OMS se refuse toujours à utiliser de manière directe le terme de pandémie. L'organisation juge la situation très préoccupante et avertit que le monde doit désormais se préparer à une éventuelle pandémie. Seule certitude, même si la Chine annonce ce matin 71 décès supplémentaires dus au coronavirus, soit le chiffre quotidien le plus bas depuis plus de 2 semaines, même si les autorités sanitaires sud-coréennes annoncent pour leur part 60 nouveaux cas de contamination, soit la plus faible croissance enregistrée au cours des 4 derniers jours, eh bien la propagation de l'épidémie hors d'Asie continue, elle, en revanche, de s'accélérer. Alors c'est le cas en particulier au Moyen-Orient, en Irak par exemple. Après avoir annoncé un premier cas hier, le ministère de la Santé a annoncé avoir identifié ce matin 4 nouvelles personnes porteuses du virus. Et puis les autorités iraniennes font état de leur côté du décès aujourd'hui de 3 personnes infectées, portant le bilan officiel de la maladie à 15 morts. Bilan officiel car hier, un député ultra-conservateur a directement accusé les autorités de Téhéran de mensonges en affirmant que le virus avait déjà fait 50 morts dans sa ville de Qom, connue pour être une importante destination de pèlerinage. Pire encore, puisque selon lui, les décès remonteraient au moins au 13 février, alors même que le gouvernement n'a annoncé les deux premières victimes que mercredi dernier. Alors, outre qu'il s'agit là d'une attaque frontale à laquelle la République islamique n'est pas habituée, surtout de la part d'un homme qui n'est pas un réformateur et n'a donc aucun intérêt politique a priori à contredire le pouvoir en place, cette polémique intervient dans un contexte particulier, en l'occurrence au terme d'une séquence désastreuse avec le tir contre un avion de ligne ukrainien et les démentis officiels successifs qui ont alimenté la méfiance de beaucoup de citoyens. Les précisions de Christian Chesneau.
Déjà sous stress économique intense, les Iraniens doivent en plus encaisser l'angoisse du coronavirus. Les autorités iraniennes ont promis toute la transparence sur l'évolution de l'épidémie, mais déjà des polémiques sur le nombre de décès agitent l'opinion publique. Un député de Qom, appartenant au camp des ultra-conservateurs, a assuré qu'une cinquantaine de personnes étaient déjà mortes, rien que dans cette ville sainte du chiisme. Des chiffres immédiatement démentis par les autorités sanitaires, mais qui évidemment trouble les Iraniens qui ont encore en mémoire l'avion civil ukrainien abattu par les gardiens de la Révolution, une tragédie dont le pouvoir avait voulu cacher sa responsabilité pendant plusieurs jours. En tout cas, impossible aujourd'hui pour les autorités iraniennes de dissimuler l'ampleur de l'épidémie à sa population. Autour de l'Iran, les pays voisins sont en alerte sanitaire. Le ministère irakien de la Santé vient d'annoncer avoir identifié 4 nouvelles personnes porteuses du virus, toutes membres d'une même famille revenant d'Iran. L'Irak, qui a pourtant fermé sa frontière terrestre avec son voisin oriental, interdit l'entrée des Iraniens sur son territoire et suspendu les vols de sa compagnie aérienne nationale vers et depuis la République islamique. C'est aussi ce que viennent de faire les Émirats arabes unis. Les vols de son pavillon national, Emirates, sont interrompus vers l'Iran pour les vols de passagers et des avions cargo. Les Émirats qui ont enregistré 13 cas de personnes contaminées. Dans tout le golfe Persique, c'est donc le branle-bas de combat sanitaire. Les monarchies pétrolières multiplient les mesures de précaution dans l'espoir de contenir l'épidémie hors de leurs frontières.
Alors, signe sans doute le plus évident de ce que la planète est en train doucement de céder à la panique, les bourses mondiales ont fortement dévissé hier, aujourd'hui encore. La bourse de Tokyo a plongé de plus de 3% en clôture, quand les marchés financiers posent déjà le diagnostic de l'épidémie de coronavirus qui fait craindre des répercussions macroéconomiques majeures. Mais pas seulement, car après être en train de s'éloigner de son berceau asiatique, voici donc que le fléau se rapproche, ou quand l'angoisse monte à mesure que l'épidémie se rapproche. C'est évidemment le cas en Italie avec 229 cas détectés, dont 7 décès. Là-bas, le principal foyer de l'épidémie a été identifié dans la région de Lombardie au sud de Milan. Et ce matin, pour la première fois, le Premier ministre Giuseppe Conte a pointé la gestion pas complètement appropriée d'un hôpital pour expliquer la propagation rapide du virus. Thibault Lefèvre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre envoyé spécial à Piacenza, non loin de cette fameuse zone rouge. La recherche du fameux patient zéro continue donc de mobiliser le système sanitaire. Et visiblement, Thibault, la psychose donc est en train de gagner du terrain, puisque même en dehors donc de cette zone de danger, eh bien vous avez pu vous-même assister à des comportements, disons, surprenants.
Oui, et notamment parmi les habitants les plus âgés, comme Emilio Gasparini, 74 ans. Il s'est mis lui-même en quarantaine alors qu'aucune autorité ne l'impose. Vous l'avez dit, nous sommes ici juste en dehors de la zone rouge. Et en arrivant chez Emilio, première règle, on se dit bonjour de loin et surtout on se lave et on se désinfecte les mains.
Je vous en prie.
Vous voulez que je me lave les mains aussi?
Oui, ça, c'est un minimum de précaution. Le ministère de la Santé a dit qu'il faut se laver les mains très souvent. J'ai toussé un petit peu, hein, enfin le matin, vous savez, on a toujours. Et donc, on sait jamais, je ne veux pas contagier les autres. Hein.
L'hygiène, donc, c'est pour protéger les autres. Et pour lui, Emilio a aussi pris ses précautions. Son premier réflexe, remplir son frigidaire.
Des tomates, des bananes, 1 kilo de parmesan. Moi, en tant que bon citoyen, je suis parti au supermarché et j'ai rempli le frigo pour 15 jours. Comme ça, je suis autonome pendant 15 jours, des pâtes, comme ça, heureusement.
Jusque-là, Emilio mangeait tous les jours au restaurant. Il passait ensuite ses après-midi au café. Aujourd'hui, cet homme affable, très entouré, vit seul, calfeutré chez lui.
C'est important parce que je ne veux pas casser ma pipe, hein, très tôt. Hein. Les personnes âgées comme moi courent des risques beaucoup plus élevés que les autres. En fait, on ne meurt pas du virus, on meurt de pneumonie. C'est ça.
Selon les autorités régionales lombardes, le coronavirus touche des hommes. Dans 70% des cas, ce sont pour la grande majorité d'entre eux des personnes âgées déjà affaiblies par d'autres pathologies.
Merci Thibaut Lefebvre en direct de Piacenza. Et puis l'Italie doit donc organiser aujourd'hui une réunion des ministres de la Santé des pays voisins de la péninsule pour déterminer des lignes d'action communes face à l'épidémie. La France a elle d'ores et déjà émis une série de recommandations pour les personnes revenant des deux régions italiennes touchées, donc la Lombardie et la Vénétie, en leur demandant notamment d'éviter toute sortie non indispensable. Enfin, le gouvernement britannique recommande à son tour ce matin à tous ses ressortissants ayant séjourné dans le nord de l'Italie de s'isoler s'ils présentent des symptômes grippaux. Aux États-Unis, les candidats à la primaire démocrate se retrouvent pour un nouveau débat ce soir en Caroline du Sud, une semaine jour pour jour avant le fameux Super Tuesday. Pour l'heure, Joe Biden, qui s'est révélé un tribun hors pair depuis le début de la campagne, reste le grand vainqueur de ces primaires après avoir encore obtenu samedi dernier 46,8% des suffrages dans le Nevada, loin, très loin, notamment devant l'ancien vice-président Joe Biden, une avance qui illustre la fracture de plus en plus visible au sein du parti entre les partisans du sénateur socialiste autoproclamé et les tenants d'un discours jugé plus rassembleur destiné à l'électorat conservateur. Ancien donateur du Parti démocrate, mais plus encore ex-magnat d'Hollywood durant près d'un quart de siècle, Harvey Weinstein a été reconnu coupable hier d'agression sexuelle et de viol, une condamnation qui lui fait risquer jusqu'à 29 années de prison. En revanche, le jury l'a disculpé de la circonstance aggravante de comportement prédateur qui aurait pu lui valoir jusqu'à la prison à vie. Son avocate a aussitôt annoncé son intention de faire appel quant à Harvey Weinstein, lequel a toujours assuré que ses relations sexuelles étaient consenties. Il n'a montré aucune once d'émotion à l'annonce du verdict et n'a fait aucune déclaration. Il a immédiatement été écroué en attendant de connaître sa peine, donc le 11 mars prochain. Après le spectacle, les affaires au lendemain d'un accueil spectaculaire digne d'un Maharaja, la visite du président américain Donald Trump en Inde revient à une diplomatie, disons, plus feutrée ce mardi, avec des entretiens bilatéraux, sans d'ailleurs que personne n'en attende grand-chose. Et pour cause, la contradiction du Make in India du Premier ministre Narendra Modi d'un côté et puis le America First du président Donald Trump de l'autre font qu'aucun grand accord commercial ne devrait être conclu. Les précisions à New Delhi de notre correspondant Sébastien Farcy.
L'Inde est la reine des taxes douanières. La phrase est signée Donald Trump et date de 2018, un moment qui marque le début d'un affrontement direct entre les deux gigantesques économies. Washington décide alors d'élever ses taxes sur l'acier et l'aluminium indien, ce qui pousse New Delhi à déposer plainte à l'Organisation mondiale du commerce et à augmenter ses droits de douane sur des produits agricoles américains. Depuis, Donald Trump mène un bras de fer avec Narendra Modi, qu'il qualifiait encore hier de négociateur tenace. Washington aimerait que New Delhi achète au moins 5 milliards de dollars de produits américains pour équilibrer sa balance commerciale déficitaire, ce que l'Inde, économie fragile, refuse à faire. Son tissu industriel est balbutiant et New Delhi veut inciter les entreprises américaines à ouvrir des usines sur son sol plutôt qu'à importer des produits finis. L'Inde protège également son agriculture peu mécanisée et qui fait vivre la moitié de la population active du pays. Du reste, le fameux déficit commercial américain n'est que de 25 milliards de dollars avec l'Inde, soit moins important que celui que les États-Unis ont avec de petits pays comme l'Italie ou la Suisse, et 7 fois moindre que celui avec la Chine. Enfin, l'Inde achète bien américain. New Delhi vient par exemple d'acquérir aujourd'hui 30 de ses hélicoptères de combat pour une somme de plus de 3 milliards de dollars.
La situation des finances publiques demeure préoccupante en France. C'est ce qui ressort du tout nouveau rapport annuel de la Cour des comptes publié ce matin. Marie Vino, bonjour.
Bonjour.
La Cour appelle donc le gouvernement à plus d'efforts sans tarder pour redresser les comptes de la nation. Les magistrats pointent notamment les baisses d'impôts de cette année, mais aussi les mesures en faveur du pouvoir d'achat de l'an passé, mesures non compensées par une réduction équivalente de la dépense, d'où, Marie, donc un déficit et une dette qui restent parmi les plus élevés de la zone euro.
Oui, en 2019, le déficit public de la France représente 3,1% de son produit intérieur brut contre 0,8% en moyenne dans le reste de la zone euro. Seule l'Espagne fait moins bien que la France. Et pour 2020, on devrait passer de 3,1% à 2,2% du PIB. Mais le déficit venant chaque année grossir la dette, elle atteint dorénavant 98,7% du PIB, bien loin cette fois donc des 60% recommandés dans la zone euro. Malgré cela, les pouvoirs publics ont fait fait le choix d'accentuer les baisses de prélèvements, écrit la Cour des comptes. Pour 2019, il y a eu effectivement les mesures prises en réponse au mouvement des Gilets jaunes. Et en 2020, les impôts ont encore été réduits de 10 milliards. 5 pour l'impôt sur le revenu, 3,7 pour la suppression totale de la taxe d'habitation et 2,7 milliards pour l'impôt sur les sociétés. Réduire la pression fiscale, c'est l'un des buts affichés du gouvernement actuel. Mais en face, les réductions de dépenses sont trop modérées, juge la Cour, qui cite l'abandon de l'objectif de réduction des effectifs de la fonction publique et des hypothèses trop optimistes, notamment les économies qui sont envisagées grâce à la réforme de l'assurance chômage. Au final, la seule réduction de dépenses réelle vient en fait de la baisse des taux d'intérêt qui permettra d'économiser 6 milliards en 2 ans sur le coût de notre dette. Le problème, c'est que le gouvernement n'a pas la maîtrise de ces économies qui dépendent de la politique de la Banque Centrale Européenne et de l'humeur des marchés financiers. Pour le moment, l'environnement économique a été favorable, mais en cas de récession ou autre choc majeur, s'inquiète la Cour des comptes, les marges de manœuvre seront faibles. Alors à ces critiques, le ministère des Finances a répondu qu'il partage en partie l'analyse des magistrats et il a promis de présenter au printemps une nouvelle trajectoire pour les finances publiques.
Merci Marie Viennot. Un nouveau recours collectif doit être déposé aujourd'hui devant le Conseil d'État contre les distances d'épandage des pesticides. Véronique Robérot, bonjour.
Bonjour.
Fort de leur dernière victoire juridique qui avait contraint le gouvernement donc à établir des distances minimales à respecter entre les aires de traitement avec pesticides et puis les zones d'habitation, plusieurs groupes associatifs cherchent désormais, Véronique, à obtenir l'invalidation de ces textes jugés pas assez protecteurs pour la santé et l'environnement.
C'est oui, non seulement ceux qui se battent pour obtenir de vraies zones de non-traitement de pesticides ne baissent pas les bras, mais ils se regroupent pour déposer ce recours devant le Conseil d'État. Un nouveau recours, car il y en a eu déjà un déposé en juin dernier, à l'époque par la seule ONG Génération Future. Le gouvernement avait alors été prié par la plus haute juridiction administrative d'élaborer un nouveau texte censé mieux protéger les riverains touchés par les épandages. C'est ainsi que le gouvernement avait dans la foulée publié un décret de zone de non-traitement retenant 3, 5, 10, voire 20 mètres comme distance d'épandage quand l'ONG plaidait pour des zones tampons d'au moins 150 mètres. Cette fois, ce n'est pas une, mais 8 associations qui déposent un nouveau recours devant le Conseil d'État. Ils regroupent des riverains, des médecins, des consommateurs, des travailleurs à travers le syndicat solidaire, des victimes aussi de pesticides. Ils souhaitent obtenir devant le Conseil d'État l'annulation de textes qu'ils jugent non protecteurs pour la santé des riverains et pour l'environnement, notamment l'eau. Le président de l'association Alerte des médecins sur les pesticides, Pierre-Michel Perrineau, dénonce ce qu'il qualifie de mesurette, pas à la hauteur des enjeux de santé publique. Il n'est, selon lui, plus possible de continuer à épandre des produits reconnus cancérogènes ou perturbateurs endocriniens à côté de lieux d'habitation. Et puis dans leur recours, les 8 associations reprochent au gouvernement d'avoir ignoré l'avis de la population lors de la consultation publique de la fin 2019, consultation publique très suivie, qui avait rejeté massivement les insignifiantes zones de non-traitement du gouvernement.
Merci Véronique Robérot. Sitôt ouvert, déjà suspendu comme attendu en raison du mouvement de grève des avocats contre la réforme de leur régime autonome de retraite, le procès de l'ex-premier ministre François Fillon et de son épouse Pénélope dans l'affaire des soupçons d'emploi fictif a été renvoyé à demain. Et une fois n'est pas coutume, donc terminons ce journal en musique avec la publication annuelle ce matin du rapport du Syndicat National de l'édition phonographique et son directeur général Alexandre Lache, invité de la rédaction. Bonjour monsieur.
Bonjour.
M'écoutez pour vous interroger. Éric Chavroux, bonjour Éric.
Bonjour, bonjour.
Alors, rappelons,
à tous.
Rappelons tout d'abord que vous représentez donc aujourd'hui tant les grandes majors que les labels indépendants, soit une cinquantaine d'enseignes dont le chiffre d'affaires totalise les 3/4 du marché français de la musique enregistrée. Et ce matin donc vous avez le sourire puisque ce marché a affiché une croissance soutenue l'an dernier de 5,4%. C'est même je crois la 4e année consécutive de reprise depuis le début de la crise dans les années 2000.
Absolument, on vient avec des bonnes nouvelles, c'est la 4e année consécutive de hausse comme vous le dites et on revient de loin puisque aujourd'hui encore on est encore qu'à 44% du chiffre d'affaires du début des années 2000.
Alors c'est une bonne nouvelle mais tout de même l'augmentation à niveau mondial était de 9,7% en 2018. Comment expliquer ce hiatus en quelque sorte? Comment se fait-il que la France reste encore en dessous?
Alors le chiffre mondial, il tient compte aussi de la progression dans des marchés qui sont moins matures que la France. La France est un grand pays de la musique enregistrée depuis longtemps et ça vous a pas échappé, on a un marché physique qui lui continue à fléchir 10% cette année.
Vous mettez donc dans ce rapport beaucoup en avant le streaming. Donc c'est ce mode de diffusion qui est pas récent. Hein. Il date de 2007. Il avait été lancé légalement à l'époque par Deezer. En quoi ça évolue en France sur le streaming aujourd'hui?
Alors, ce qui évolue, c'est en particulier le streaming par abonnement, puisque c'est lui qui va porter la croissance aujourd'hui. Il progresse de près de 20%. Et en valeur absolue, c'est devenu le segment le plus rémunérateur pour notre industrie.
Aujourd'hui, il y a un cap, c'est le cap des 10% de la population française qui a un abonnement payant, c'est ça?
C'est ça, effectivement, il y a 7,2 millions d'abonnements payants. Et si on y ajoute les utilisateurs au sein des offres famille, c'est même 9,4 millions de Français qui utilisent déjà des abonnements payants.
Comment ces 10% de Français sont désormais prêts à payer? C'est lié à des offres d'opérateurs? Comment tout ça s'est fait? Parce que pendant longtemps, on a dit, la musique, les gens ne sont pas prêts à payer. Il y avait eu beaucoup de piratage, il y avait des habitudes de gratuité qui faisaient qu'on se disait, ça serait pas possible.
Alors c'est un long chemin, effectivement. Depuis 2007, c'est tout le travail des producteurs et des plateformes ensemble que de convaincre les utilisateurs à s'abonner. Et l'abonnement, il fait ses preuves, puisqu'on voit que lorsqu'on est abonné, on écoute beaucoup plus de musique que lorsqu'on ne l'est pas. Et puis surtout, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a encore... Il y a encore des perspectives d'avenir. On en a encore sous le pied. 10%, c'est pas si énorme. Dans des marchés voisins comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni, le nombre d'abonnés est bien supérieur encore.
Aux États-Unis aussi.
Aux États-Unis, bien sûr, dans les pays scandinaves, on a encore des perspectives et des marges de progression.
Mais ça commence à rentrer dans les usages, y compris pour les classes d'âge âgées, on va dire, je sais pas, les plus de 50 ans, ou, par exemple.
Alors, les plus de 55 sont déjà un quart des utilisateurs de streaming audio, mais pour autant, ils ne sont encore que 11% parmi les abonnés. Donc, effectivement, là, c'est un potentiel de croissance important. Il faut continuer à convaincre l'ensemble des utilisateurs, et notamment cette tranche d'âge, de se convertir à l'abonnement sur Spotify, sur Deezer, Apple Music ou l'ensemble des plateformes.
Ça passe justement par exemple par des offres familiales, c'est-à-dire c'est au sein de la famille qu'on va se convaincre.
C'est vrai, alors vous avez des offres qui sont de plus en plus adaptées. Les offres famille ont été lancées il n'y a pas très longtemps, elles rencontrent un vrai succès. Vous avez des offres étudiantes aussi à l'autre bout de la chaîne, avec des tarifs adaptés. Il y a une diversification des offres qui permettent à tout un chacun de trouver l'abonnement qui lui correspond.
Alors, c'est depuis peu que les revenus numériques sont plus importants que les revenus physiques. Est-ce que pour vous, la bascule est définitivement actée?
Alors, il n'y a jamais rien de définitif hein, dans notre secteur, mais quand même, là, on voit que aujourd'hui, le numérique, c'est 63% des revenus, et on voit bien que ça va continuer à progresser assez rapidement. Mais le CD et le physique, en général, ça reste important. C'est encore 37% des revenus des producteurs et des artistes.
Et ça reste important. Pourquoi? On a parlé notamment de la renaissance du vinyle. Est-ce que d'abord on peut employer cette expression-là et comment ça s'explique?
Oui, c'est vrai. Alors il y a un engouement de toutes les générations d'ailleurs pour le vinyle qu'on constate depuis quelques années. En 4 ans, le chiffre d'affaires du vinyle a quadruplé. Et on le voit là encore cette année, en chiffre d'affaires détail, le vinyle augmente de 12%.
Et c'est le support, c'est les pochettes, c'est la qualité du son, c'est quoi? C'est de la nostalgie?
C'est le mélange de tout ça. C'est pas que de la nostalgie, parce que justement, il y a beaucoup de moins de 30 ans qui achètent du vinyle. Ils sont 42% parmi les moins de 30 ans à acheter des vinyles. Et il y a beaucoup aussi de nouveautés parmi le top 50 vinyles. Vous trouvez les albums d'Angèle, de Mylène Farmer, de Coldplay, de Billie Eilish. Il y a énormément d'albums récents, d'albums qui viennent de sortir, qui se classent parmi les meilleures ventes de vinyles.
Par streaming, on entend souvent audio, on pense souvent à audio, mais il y a aussi vidéo, en particulier YouTube. Et c'est d'ailleurs une des portes d'entrée principales pour le piratage aujourd'hui. Qu'est-ce que vous dites de ça? Comment est-ce que vous voyez ça?
Alors YouTube, c'est d'abord la première plateforme de musique en ligne, avec près de 50% du temps passé à écouter de la musique en ligne. Mais c'est vrai que c'est encore seulement 11% des revenus du streaming. Donc là aussi, il y a des marges de progression. Il y a un cadre juridique qu'il faut assainir, qu'il faut clarifier, pour permettre aux producteurs, aux artistes et aux auteurs de vivre correctement de la diffusion de leurs œuvres sur YouTube.
Ultime question, dans votre rapport, vous parlez beaucoup du succès des artistes français, des titres français. Vous pouvez nous donner quelques noms, quelques chansons?
Alors déjà, un constat qui est hyper positif, c'est que 19 des 20 meilleures ventes de l'année dernière sont des artistes produits et développés en France. Et je vais vous donner un seul nom, c'est la numéro 1 de ce classement, c'est Angèle, qui a réalisé un score incroyable avec un disque de platine, avec un disque de diamant, dès l'année dernière.
Merci Alexandre Lage, directeur, je le rappelle, du Syndicat National de l'édition phonographique, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également Eric Chavreau. On termine avec un mot de météo pour cet après-midi, avec partout un ciel le plus souvent couvert, porteur de fréquentes averses. Quant aux températures, elles afficheront généralement entre 8 et 15 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.